L'exécutif a tranché. Le prélèvement de l'impôt à la source entrera bien en vigueur au 1er janvier prochain, avec à la clé quelques améliorations pour les contribuables. C'est ce que promet le Premier ministre Édouard Philippe, vous l'entendrez.
La fin des hésitations aussi avec François de Rugy nommé au ministère de la Transition écologique pour remplacer Nicolas Hulot. Comment l'écologiste qui veut réduire la production nucléaire en France va-t-il pouvoir faire entendre sa voix au sein du gouvernement? Portrait d'un ministre très Macron compatible dans un instant.
Le nucléaire en question par ailleurs aujourd'hui à Londres avec le gratin de l'industrie de l'atome qui se réunit jusqu'à demain pour parler de son avenir. En Espagne, les indépendantistes catalans ont repris hier leur offensive politique. Quim Torra, le nouveau président de l'exécutif régional, appelle les Catalans à se mobiliser massivement dans la rue dans les prochaines semaines.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, massacre des Rohingyas, journaliste emprisonné. Comment expliquer le silence de la dirigeante Aung San Suu Kyi? On posera la question à Olivier Guillard, chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Birmanie.
L'impôt sur le revenu sera prélevé à la source comme prévu à partir du 1er janvier prochain. Le Premier ministre l'a confirmé hier soir sur TF1, mettant un terme à une semaine d'hésitation de l'exécutif. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Catherine.
Hésitation de l'exécutif, c'est un terme que récuse Édouard Philippe. Il préfère lui parler de souci d'exigence.
Souci d'exigence, oui. L'exécutif voulait être certain, a expliqué Édouard Philippe hier soir sur TF1, que tout allait bien se passer.
Le président de la République a dit qu'il était sur ce sujet d'une exigence totale. Et nous avons la garantie que cette réforme sera mise en œuvre dans de bonnes conditions pour les contribuables.
Le Premier ministre qui ensuite a expliqué en quoi cette réforme était une avancée, par exemple pour un salarié qui part à la retraite.
Pour celui qui part à la retraite, aujourd'hui le dispositif voulait que celui qui partait à la retraite payait pendant sa première année de retraite des impôts sur la dernière année d'activité. Il payait donc beaucoup d'impôts à un moment où ses revenus baissaient un peu. Avec le prélèvement à la source, ce décalage dans le temps disparaît complètement.
Il a également voulu rassurer les entrepreneurs qui seront chargés de collecter l'impôt. Ce sera simple, a dit Édouard Philippe.
Le système sera simple. L'administration communiquera un taux à l'employeur. C'est tout. Un taux à l'employeur. Qui l'appliquera? On le verra sur la fiche de paye et on n'en parlera plus.
Le Premier ministre a donc fait la pédagogie de sa réforme, de cette mesure. Et c'est d'ailleurs un des bénéfices que le gouvernement peut tirer de cet épisode politico-médiatique. Ça nous a permis de donner une notoriété à cette mesure qu'elle n'aurait jamais eu autrement, expliquent les services de Bercy. Et puis de répondre massivement à des inquiétudes que les Français expriment en nombre, par téléphone, en appelant les services fiscaux. Et puis, l'autre bénéfice pour l'exécutif, et pour Emmanuel Macron en particulier, il est politique. Ça lui permet de reprendre la main alors qu'il traverse une passe difficile, de montrer qu'il y a encore un capitaine à la barre du navire et de contrebalancer, de compenser partiellement la très mauvaise nouvelle que constitue la défection de Nicolas Hulot.
Une défection sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Journée chargée effectivement hier pour l'exécutif, avec un remaniement finalement à minima et l'arrivée au ministère des Sports de Roxana Maracineanu, première française sacrée championne du monde de natation en 1998. Cette fille de réfugiés ayant fui la Roumanie de Ceaușescu remplace Laura Flessel, qui a évoqué des raisons personnelles pour expliquer sa démission. L'envie de se tourner vers l'humain, vers la coopération internationale. Mais selon Le Canard Enchaîné et Mediapart, des ennuis fiscaux pourraient avoir précipité le départ de Laura Flessel. La société de droit à l'image, Flessel & Co, dans le viseur de la commission des infractions fiscales, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impôts auraient été dissimulés au fisc sur les trois dernières années de l'entreprise familiale. Mais ce qui a surtout été scruté donc hier, c'était la passation de pouvoir au ministère de la Transition écologique, avec tout d'abord les larmes de Nicolas Hulot.
J'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille. Le sens de ma décision, ça n'est pas de baisser les bras. C'est de lever les yeux. Nous sommes dans un état d'urgence écologique qui mérite que nous saisissions l'opportunité, pendant que nous le pouvons encore, de construire ce nouveau monde.
Comme une injonction de Nicolas Hulot à son successeur François de Rugy, ex-vert puis ancien président de l'Assemblée nationale, désormais donc ministre de la Transition écologique et solidaire.
Je crois depuis toujours que l'urgence écologique est un appel à l'urgence d'agir. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que le progrès, c'est l'écologie. Aujourd'hui, ce ne sont plus les Français qu'il faut convaincre. C'est sur l'aspiration écologique des Français qu'il faut s'appuyer pour lever les conservatismes et l'inertie.
François de Rugy, qui lorsqu'il était candidat à la primaire à gauche en janvier 2017, ironisait sur le programme écologique d'Emmanuel Macron, plutôt sur l'ancien monde, sur le nucléaire, sur le diesel, déclarait à l'époque François de Rugy, écologiste, désormais en marche, Alexandra Dubouchereau.
Voilà un ministre totalement Macron compatible. Avec lui, il ne devrait pas y avoir de désillusion à la Hulot. Les chasseurs eux-mêmes saluent cette nomination, eux qui avaient eu raison de l'ancien animateur télé. François de Rugy, 44 ans, est un modéré, pragmatique, peu charismatique, diront certains. Ce n'est donc pas le choix de l'audace, même s'il reste la caution écolo du gouvernement. Adhésion à Génération Écologie à 18 ans, puis Les Verts, Europe Écologie Les Verts. En 2015, il dénonce le virage gauchiste de son parti et rejoint les députés socialistes. Et puis, l'élu de Loire-Atlantique n'est pas non plus un parfait inconnu. Au perchoir, il était le quatrième personnage de l'État. Candidat malheureux à la primaire du PS et de ses alliés l'an dernier, il a fait parler de lui en ralliant Emmanuel Macron au détriment du socialiste Benoît Hamon. Je préfère la cohérence à l'obéissance, expliquait alors le transfuge partisan d'une ligne sociale libérale. Sa devise, l'écolo-nomie, l'écologie comme premier facteur de relance économique.
François de Rugy, ministre des apparences, tacle déjà Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Chez les Verts, l'eurodéputé Michel Rivasi dit attendre avec impatience de voir si son ancien camarade fermera effectivement les centrales nucléaires vieilles de 40 ans, engagement de François de Rugy lorsqu'il était encore dans les rangs d'Europe Écologie. L'atome au cœur d'une réunion à Londres à partir d'aujourd'hui avec le gratin de l'industrie nucléaire mondiale qui s'inquiète de voir actuellement le ralentissement de la production de réacteurs dans le monde dans un contexte où le nucléaire n'a plus forcément la cote auprès des populations, Annabelle Grelier.
L'année dernière, la directrice générale de l'Association nucléaire mondiale n'avait pas caché son inquiétude face au ralentissement du rythme de fabrication des réacteurs dans le monde. Pourtant, 59 nouveaux réacteurs sont aujourd'hui en construction dans une quinzaine de pays, mais près de 40 d'entre eux accusent des retards. Et il n'y a pas que l'EPR français qui connaît des ratés. La Chine, où la production nucléaire ne fait qu'augmenter, marque quelque peu le pas, avec 11 réacteurs sur les 20 en construction qui ne seront pas livrés à l'heure. Au total, 410 réacteurs sont en exploitation à travers le monde. Le leader mondial de production d'électricité nucléaire reste les États-Unis, puis la France. Mais c'est finalement aujourd'hui la Russie qui tire le marché. La Russie qui a lancé les deux seuls nouveaux chantiers au premier semestre de cette année. L'un sur son sol, l'autre en Turquie. Dans le même temps, 3 réacteurs ont été déconnectés du réseau en 2017, en Allemagne, en Suède et en Corée, et d'autres le seront au Japon cette année. Malgré les efforts des lobbies, le nucléaire serait en voie de disparition, selon certains experts. En tout cas, un renouvellement trop faible et un vieillissement des centrales trop important ne permettront pas à l'industrie nucléaire d'atteindre l'objectif qu'elle s'est donné de produire 25% de l'électricité mondiale en 2050. La concurrence de la production d'énergie renouvelable, elle ne faiblit pas, en croissance de 15%. Sur le plan mondial, le solaire dépasse désormais largement le nucléaire en capacité, mais pas en production. Le nucléaire recule bel et bien dans le mix électrique mondial, mais de 0,2% pour l'année 2010.
7h08 sur France Culture, la suite des matins de Catherine Dutu. Israël et la Russie ont frappé la Syrie hier.
Des missiles lancés tout d'abord par des avions militaires israéliens dans l'ouest de la Syrie contre des positions militaires iraniennes, bêtes noires d'Israël. Téhéran aide, on le sait, le régime syrien de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les djihadistes. 3 soldats syriens ont été tués. Et puis au moins 13 civils, dont 6 enfants, ont été tués hier dans des raids russes sur la province d'Idlib, dernier grand bastion insurgé du nord-ouest de la Syrie. Ces frappes interviennent à quelques jours d'un sommet qui doit réunir vendredi à Téhéran les chefs d'État iraniens, russes et turcs, dont les pays respectifs parrainent les belligérants en Syrie. Les États-Unis ont de leur côté une fois de plus averti hier le régime de Damas. Washington réagira rapidement si le président Bachar al-Assad utilise des armes chimiques pour reprendre la province insurgée d'Idlib. En Espagne, les indépendantistes catalans reprennent leur offensive politique. Le nouveau président de l'exécutif régional a dévoilé hier à Barcelone sa stratégie pour l'année à venir. Pas de référendum sur une autonomie élargie proposée par Madrid. Non, il ne faut rien lâcher, selon Quim Torra, sur la question de l'indépendance. Quim Torra qui demande encore aux Catalans de se mobiliser massivement dans la rue au cours des prochaines semaines, Sébastien Berriot.
La stratégie de Quim Torra, c'est de miser sur le peuple catalan pour faire pression sur Madrid. Le président de la Generalitat appelle les Catalans à une occupation quasi permanente de la rue pendant l'automne. Une marche des citoyens, a-t-il expliqué, sur le modèle de la marche des droits civiques de Martin Luther King. Quim Torra fixe pour cela un calendrier qui devra démarrer mardi prochain, jour de la Diade, la fête nationale catalane. Il espère je cite, une multitude de citoyens pour faire déborder la Vinguda Diagonale à Barcelone. Même chose le 1er octobre pour commémorer le jour du référendum, puis tout au long de l'automne. Une mobilisation qui devra toujours rester pacifique, a-t-il rappelé, car dans le même temps, le leader catalan espère négocier et parvenir à un accord avec le nouveau chef du gouvernement espagnol, avec des conditions qui ne semblent pas franchement réalisables, que ce qu'il appelle les prisonniers politiques soient libérés, que Pedro Sanchez cesse de répéter les erreurs de Mariano Rajoy et qu'il accepte un véritable référendum sur l'indépendance, un processus, a insisté Quim Torra, qui est aujourd'hui complètement irréversible.
Retour en France avec le premier jour du procès sur la mort de Clément Méric en 2013. Dans ce procès aux Assises à Paris, question principale, la mort de cet étudiant de 18 ans est-elle liée à une bagarre générale entre deux bandes rivales d'extrême gauche et d'extrême droite ou bien est-ce une agression ciblée? Les débats d'hier ont tourné autour de la personnalité du principal accusé, Esteban Morillo, à l'époque sympathisant d'extrême droite. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Il est accusé d'avoir porté plusieurs coups au visage de Clément Méric, entraînant sa mort quasi immédiate. Florence Turme.
Il a fait recouvrir ses tatouages de l'époque, une femme dans une coupe de champagne et la mention « Travail, famille, patrie » sur son avant-bras. Je trouvais que la devise était belle, mais je ne savais pas que ça avait un rapport avec Vichy. Costume sombre, cheveux courts, silhouette massive, Esteban Morillo affirme avoir tiré un trait sur son passé, loin des crânes rasés et du look des skinheads, des gros bourrins que je ne suis pas. À la barre, il a commencé par dire combien il était attristé, catastrophé par cette affaire. La veille du procès, son employeur lui a annoncé son licenciement. Aujourd'hui, il vit avec 4 chats, des rats, des lapins et un blaireau, rêve de créer avec sa compagne un refuge pour les animaux maltraités. Face à la cour, il semble avoir gommé de sa mémoire ses écrits de l'époque, des propos extrêmement violents. Pourtant, souligne la présidente, sur votre page Facebook, le seul ouvrage cité, c'était quand même Mein Kampf. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, reprend l'accusé d'une voix tremblante. De troisième voix, le mouvement ultranationaliste. Il pensait que c'était un syndicat, ni de droite, ni de gauche. Je les ai juste aidés dans les rassemblements pour faire du nombre. Et quels étaient vos rapports avec Serge Ayoub, reprend l'un des avocats de la partie civile, très loin. À ses yeux, je n'étais qu'un gamin. Serge Ayoub, figure tutélaire du mouvement, est cité comme témoin, n'a visiblement pas l'intention de venir au procès. Il a produit un certificat médical assorti d'un courrier demandant à la présidente d'assurer sa propre sécurité. Avec cette conclusion, il est hors de question que le drame se réitère et qu'une fois agressé, je sois obligé de me défendre.
Plusieurs opérations de police en cours ce matin à Creil dans l'Oise dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était le 1er juillet dernier. Perquisition au domicile de plusieurs membres de la famille du braqueur multirécidiviste. Le temps de ce mercredi 5 septembre partagé entre nuages éclaircis et averses. Les températures sont comprises ce matin entre 11 et 17 degrés du nord au sud jusqu'à 21 déjà près de la Méditerranée. Cet après-midi comptez de 18 à 23 degrés près de la Manche, 23 à 29 degrés sur le reste de la moitié nord, 25 à 32 au sud. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutuy. Il est 7h13, la suite des matins de France Culture. On va s'intéresser à la situation en Birmanie.